Bonjour, c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Bonjour à tous les amis fidèles au rendez-vous des petites histoires de l'aviation. Je vous propose, puisque je l'ai mise en scène au milieu d'autres avions, ce Simoon, construit par l'entreprise Caudron. Cette entreprise fondée par les deux frères Caudron, Gaston l'aîné et René son jeune frère, installé en Picardie, près de la fameuse plage du Crotoy. N'oublions pas que cette région est une autre des patries de l'aviation et que les Caudron y sont les pionniers. En 1909, ils fondent la société des avions Caudron Frères et sont des fournisseurs et utilisateurs de beaucoup d'avions produits par Renault. D'ailleurs, en 1933, ils seront directement associés à Renault, en fait rachetés, et appelés désormais Caudron Renault. C'est une façon pour Caudron de pouvoir continuer son activité dans des conditions économiques satisfaisantes. Mais parlons maintenant un peu plus de ce fameux Caudron Simoon, un des appareils de la gamme de l'entreprise. Ce Simoon, je l'ai dit, est un avion léger, très moderne pour l'époque. C'est un monoplan à aile basse, c'est-à-dire que l'emplanture au raccordement avec le fuselage est au niveau du plancher de la cabine. On peut le qualifier de bien construit, luxueux et confortable. C'est l'avion idéal pour les déplacements dans tout le pays et les pays voisins. Ses quatre occupants y sont bien installés. La cabine est fermée et comporte assez de vitrages pour être lumineuse. L'ensemble est silencieux. Je dirais relativement silencieux par rapport à des normes ultérieures ou d'aujourd'hui. Mais en 1935, c'est une avancée importante. Cette qualité de silence est en bonne partie due à une qualité de dessin de l'appareil lui-même et surtout d'aérodynamisme, de travail sur les lignes générales, les gouvernes et les empennages. Une occasion, dans le contexte général de l'aviation en pleine évolution, d'évoquer l'importance du dessin de tous ces systèmes et surtout de leur concepteur. Ce concepteur est certainement le plus brillant en France et ses talents ont largement dépassé l'aviation avant beaucoup d'avions Caudron, puisque Marcel Riffard, c'est bien de lui qu'il s'agit, tout autant illustré dans le dessin des Renault de l'époque, notamment les sportives performantes et les autos de record. Chez Caudron, il était bien secondé par Georges Ofinowski. Aujourd'hui encore, dans les rassemblements de voitures anciennes, les survivantes, soigneusement restaurées et entretenues, font l'admiration des visiteurs et des désigneurs professionnels contemporains. Je ne citerai que la Viva Grand Sport, appelée aussi Nerva Stella, dont la promotion était très appuyée avec le concours de la grande Hélène Boucher, autre personnage incontournable de l'aviation, malheureusement morte peu de temps avant. Je vous parle du Simoon comme d'un modèle unique. En fait, il y a un grand nombre de Simoon, démonstration des évolutions qui se multiplient rapidement au fur et à mesure des améliorations apportées par le constructeur lui-même encouragé, sinon forcé, par les demandes spécifiques d'acheteurs, riches, particuliers ou candidats à des raids. Mais l'avion du raid de Japy avait perdu, à force de préparation spécifique, ce côté luxueux et confortable au profit d'aménagements dont des réservoirs supplémentaires, sans compter la suppression d'éléments conçus à l'origine pour être isolants thermiques ou phoniques, permettant de gagner sur le bilan masse, sujet très important. De la même façon, Caudron jouait avec les moteurs, 4 ou 6 cylindres, et puissances variées. Ces versions, toujours Caudron à la base, avaient des désignations. C-130 générique et C-633, 634, 635, notamment sans compter des prototypes. Les moteurs sont des Renault, de la famille Bengali. Celui que l'on verra le plus longtemps sera le fameux 6Q, notamment 01, 10 ou 11. On reverra également ces deux derniers sur beaucoup d'autres appareils monomoteurs et même bimoteurs, sur lesquels on pourra revenir au fil du temps et des avions. Mais l'avion d'André Japy n'a maintenant plus rien à voir avec cet appareil brillant et efficace. Sa ligne et son aérodynamisme ne sont plus qu'un souvenir puisqu'il gît maintenant dans la forêt où il a été plaqué par un vent rabattant très violent qui a surpris son pilote à ce moment occupé à chercher l'aérodrome où il voulait se poser pour ravitailler en essence, afin de pouvoir boucler les 900 km de son périple jusqu'à Tokyo. Après son accident sur le mont Sefuri, André Japy a pu être secouru par des ouvriers forestiers qui travaillaient un peu plus loin. Ils ont fabriqué un brancard de fortune avec des branches et des branchages recouverts d'un parachute et l'ont transporté dans un village à plusieurs heures de marche. Après des premiers soins sur place, il est transféré à l'hôpital de Fukuoka, gravement blessé mais conscient, mais souffrant beaucoup. Précisément, j'avais fait état de crainte que l'on pouvait avoir qu'un aviateur venu d'on ne sait où ait pu surgir dans le paysage d'un pays dont la réputation lointaine n'était pas vraiment favorable pour espérer un accueil amical. En fait, on a vu qu'il a été secouru, transporté blessé dans les moins mauvaises conditions possibles, soigné d'abord et pris en charge par les services hospitaliers et bénéficiant des meilleurs soins. L'intervention et la compassion de missionnaires résidant à l'évêché de la ville y a fait pour beaucoup lors des 3 mois de convalescence. Ces missionnaires l'aideront beaucoup en lui constituant une forme de secrétariat pour rester en contact avec la France et pour répondre à l'abondant courrier qu'il reçoit. Au-delà des soins infirmiers, l'accueil de la population a été très chaleureux. Le pilote français était devenu très populaire et recevait notamment les enfants des écoles qui se pressaient à son chevet pour manifester à la fois leur curiosité et leur sympathie. C'est extraordinaire d'enthousiasme et de sympathie. Japy aura plus tard l'occasion d'en parler avec reconnaissance et émotion, en disant que c'était là le côté le plus positif de son accident, et il reconnaissait que si l'événement n'avait pas eu lieu, cette séquence extraordinaire n'aurait pu avoir lieu. Il a déclaré au journal La Croix à Paris, à son retour, je le cite, « Je me demande s'il est sur la terre un autre pays où j'aurais été traité avec autant de soins, de sympathie et de respect. » D'ailleurs, et j'aurai l'occasion d'en reparler, les relations entre les Français, notamment ceux de Beaucourt, village d'origine de Japy, avec des relations suivies et des jumelages de communes sont très fortes. Et un projet superbe avec l'avion de l'association Renaissance d'un Caudron, lorsqu'il aura été mis en vol à la fin de sa restauration, illustrera la force de cette relation franco-japonaise. Notre pilote est en convalescence, il se remet de ses fractures aux jambes et commence à se déplacer avec des béquilles. Il est très actif et informé qu'en France, personne ne lui tient rigueur de cet accident qui l'a empêché de gagner le challenge et d'avoir causé la destruction de l'avion. Mais objectivement, il a bien atteint le Japon au départ de Paris en un temps remarquable et après avoir battu le record de Paris-Hanoï établi précédemment par Maryse Hills. Et puisque les records sont faits pour être battus, Maryse améliorera à son tour, toujours sur Simoun, cette fois le Delta Yankee, en 92h21, là où Japy avait été crédité officiellement de 98h52, un an plus tôt. Pour illustrer le contexte et l'ambiance de compétition dans laquelle ces courses aux exploits vitesse, altitude ou distance se déroulaient, il est amusant de noter que ce dernier record a été acquis un peu par hasard à la suite d'un échec. En effet, Maryse avait quitté Istres pour s'attaquer à un autre record de distance féminin cette fois, détenu par la grande pilote américaine Amelia Earhart. Décidément, nous croisons beaucoup de beau monde. Obligé de se poser à Alexandrie à cause du mauvais temps et des vents qui lui occasionnaient une consommation trop importante, elle s'apprêtait à renoncer lorsqu'un calcul rapide lui donne l'occasion de sauver sa tentative de record de distance par un record de liaison de ville à ville. Je pense que les chronométreurs et les services d'homologation des records se débrouillaient comme ils le pouvaient avec toutes ces données et déclarations. Toute cette notoriété acquise par Japy est corroborée par l'accueil qui lui est fait lorsqu'il débarque d'un avion d'Air France à Marseille avant de rejoindre Paris où l'attend sa famille, sa mère, son frère Albert, très fier de l'exploit de son petit frère, qu'il a toujours encouragé. Également, une personnalité politique, dont le nom aura un retentissement énorme plus tard, en la personne de Jean Moulin, chef de cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'Air, il sera chargé de l'accueillir à son arrivée. Japy était encore en convalescence au Japon lorsque la France lui a décerné la médaille de la Légion d'honneur en qualité de chevalier. Un peu plus tard, l'année suivante, il sera d'ailleurs élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Et l'année suivante encore, la médaille Louis Blériot lui sera remise. Cette médaille, qui porte le nom du vainqueur de la Manche en 1909, est remise aux aviateurs, s'étant illustrée lors d'exploits exceptionnels. Ce raid Paris-Tokyo, disons plutôt France-Japon, a sans conteste constitué le fait marquant, au moins vis-à-vis des témoins de l'époque. Il a sans doute un peu masqué le reste de la carrière de Japy, ses exploits d'avant et ceux qui suivront. La modestie du pilote contribuera largement à cette discrétion. Et la Seconde Guerre mondiale qui se profile et l'après-guerre l'orienteront vers d'autres engagements. Mais, pendant ce temps, le Codron Simoun, avec ses fameux moteurs Renault de la famille Siskiyou, qu'il a si bien mis en évidence, continue à s'illustrer aux mains de nombreux aviateurs, y compris sur les bimoteurs Codron Goéland. Je vais y revenir à notre prochain rendez-vous sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. À très bientôt.
Altitude FM.